Je commencerai par dire que nous avons une certaine tendresse pour la ville de Mulhouse. Parce que cette ville, en effet, nous a accueillis. Alors que nous avons beaucoup de questions au sujet de ce que nous faisions. Parce que c'est ça, le parcours d'un pédagogue, c'est pas de dire j'ai trouvé la solution, c'est de se poser en permanence la question, est-ce que ce que je propose a de la valeur ? Et on a la chance de rencontrer des gens qui nous ont aidés à, non pas à répondre à nos questions, mais à nous poser encore plus de questions. Et ça s'est passé en effet en partie à l'université de Mulhouse, en compagnie de M. Chalmel, peut-être que d'aucuns le connaissent. Voilà. Donc on est content d'être là. Puis on a eu l'occasion de travailler avec Michel et Jean-Pierre dans un atelier où on s'est intéressé à savoir, tiens, est-ce qu'une école peut être résiliente ? Est-ce qu'une école peut aider des gamins qui ont subi des traumas de la vie ou des traumas scolaires ? Parce que, est-ce qu'une école comme institution peut les aider à retrouver un certain sourire face à la vie ? Face à l'apprentissage et face à eux-mêmes. Et ça, donc on est très heureux d'avoir été invités par vous aujourd'hui. C'est une belle marque d'amitié commune. Voilà. Je vous présente Léonard Guillaume. Alors, Léonard Guillaume a une certaine expérience dans l'enseignement. Bon. Il a une caractéristique particulière, c'est que très tôt, il a détesté l'école.
C'est vrai.
Il est devenu instituteur. Mais ce n'est pas anodin ce que je viens de dire, parce que quand on a détesté l'école soi-même et qu'on a, eu un parcours parfois sinueux, eh bien, on a une attention particulière pour les gamins ou les jeunes gens ou les adultes, vous allez le comprendre, qui eux-mêmes n'ont pas toujours trouvé leur voie à l'école. Alors, pas toujours de la faute de l'école, entendons-nous. Hein. Mais voilà, les faits sont là. Et donc, très tôt, je sais, parce que j'ai souvent été dans son école, il a mis le postulat en place que les enfants du cardiologue devaient côtoyer les enfants de la dame qui vivait toute seule dans une caravane. Pour apprendre des choses sérieuses et pour apprendre ensemble. Et c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Apprendre ensemble. Oui, mais apprendre pour quoi faire. Voilà. Alors,
oui.
Il y a peu de temps, il avait encore des élèves devant lui. Mais, comment dire, vu l'expérience accumulée, le ministère de l'Éducation a accepté qu'il quitte sa classe.
Mais bon, administrativement parlant, parce que j'y vais encore un petit peu... Vous avez compris que c'était lui, Jean-François Manil. Notre histoire a commencé il y a 25 ans, plus ou moins. Et ce qui me frappe toujours quand je vais dans son école, tout d'abord, ce n'est pas une école, c'est une maison dans laquelle apprennent 90 enfants. Et donc, il y a 12 espaces qui vont de la cave au grenier, où les enfants sont dispersés. Et ils sont 4 instituteurs et demi. Donc il n'y a pas un instituteur dans chaque local. Et donc ça pose question, ça, sur la gestion de l'autonomie, l'apprentissage par soi-même et des choses comme ça. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'ils ne sont pas dans des tranches d'âge figées. Donc, vous allez voir Jean-François demain avec des grandes sixièmes et le surlendemain avec des petites premières et la semaine suivante avec des enfants de maternelle et des enfants de sixièmes. Bon, et c'est comme ça chez les collègues aussi. Ça nécessite qu'il y ait de longs moments de communication entre eux. Longs moments de communication dont ils se servent pour ne pas devoir travailler chez eux le soir. Bien sûr. Et donc, quand on rentre chez soi, c'est fait. Mais on ne rentre pas à 3h30, 4h. Hein. C'est plutôt 5h30, 6h. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'interpellant aussi dans nos deux écoles, c'est que depuis une quinzaine d'années, viennent frapper à notre porte des parents et des enfants qui ne savent plus trop quoi faire par rapport à l'école, parce que leurs enfants n'en veulent plus, parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils voient que ça ne fonctionne pas. Et donc on vient frapper à notre porte. On est dans un système en Fédération Wallonie-Bruxelles extrêmement concurrentiel, avec plusieurs réseaux. On est dans une logique de marché scolaire, il faut le savoir. Et nous ne voulons pas adopter une étiquette de touring secours pédagogique. Ça, c'est une chose, ni même de Aldi pédagogique. On a essayé le cactus, ça ne va pas, on va chez Aldi. Et il y a des conséquences à ça. C'est que nous refusons parfois des inscriptions. On est dans l'enseignement officiel, dans des écoles communales, on peut pas toujours, mais on fait comprendre que, je vous donne deux exemples, nous refusons des inscriptions. Quand on vient nous demander pour inscrire un garçon, alors que sa petite sœur, on la laisse dans l'école qui a blessé l'aîné, parce que sa petite sœur s'en sort bien. Ça, c'est non. Nous refusons aussi quand on se rend compte que il y a opposition entre les valeurs que nous prônons et les valeurs défendues par les parents. Ça se remarque rapidement. Dès lors que les enfants vont un petit peu mieux, on va acheter des cahiers d'exercices pour faire l'école à la maison pour qu'ils deviennent quand même plus forts que les autres. Et là, ça ne va pas. Donc ça, c'est une des conséquences. Donc, nous avons des enfants qui ne vont pas bien, mais nous avons à côté des enfants qui vont très très bien. Et c'est cette osmose, c'est ce mélange-là qui nous intéresse et qui nous questionne et qui nous a orientés sur la pédagogie du chef-d'œuvre. Et on va découvrir ça ensemble.
Donc rassurez-vous, la pédagogie du chef-d'œuvre n'est pas totalement et radicalement lié à l'enseignement fondamental. Nous la mettons en place dans les cours d'université que nous avons, dans les collectifs d'alphabétisation avec des adultes qui apprennent la langue française, dans les écoles secondaires, dans des écoles... Voilà. Mais ici, nous désirons nous appuyer sur l'expérience qui est la nôtre. C'est de la pédagogie.
Voilà, on vient d'en parler, ceci aussi, mais je le remontre quand même un petit peu. Hein. Voilà.
Alors, Jean-Pierre a fait un rapide historique qui est là. Il y a une chose qui nous a tout de suite intéressés chez les Compagnons du Devoir, c'est leur devise. Ni se servir, ni s'asservir, mais bien servir. Eh bien, ça, c'est une devise que nous avons adopté, nous, dans nos écoles, en tant qu'enseignants, et on l'a offerte aux enfants, et en la transformant, en disant, ce n'est ni comprendre, ni apprendre, mais bien prendre pour faire apprendre aux autres. Et on s'est rendu compte assez rapidement que les enfants les plus en difficulté scolaire, dès lors qu'ils savaient que la mission qu'on leur donnait avait un résultat de communication, commençait à retrouver le sourire. Je vous donne un exemple que j'ai organisé ce matin. Les élèves sont obligés de lire un roman par semaine. À la différence de ce que nous on a vécu, ce n'est pas moi qui impose le roman. Ils choisissent le roman dans la bibliothèque. S'ils n'aiment pas le roman après deux jours, ils peuvent en changer. Mais il doit être lu pour le mardi, parce que le mardi, nous apprenons à résumer. Alors on a mis 17 ou 18 techniques de résumé en place, parce qu'on ne résume pas les mêmes choses de la même façon. Et aujourd'hui, c'était, vous allez faire un résumé apéritif. Maximum 5 lignes. Vous le faites corriger, donc j'ai 33 élèves. Pendant ce temps-là, d'autres travaillent autre chose, je corrige évidemment. Et on va faire deux groupes, et vous allez lire votre résumé aux autres. Parce que le but, c'est qu'ils aient envie de choisir votre roman. Donc c'est bien apprendre pour faire apprendre. Et là, la qualité augmente et les exigences peuvent être énormes. Je suis très exigeant sur la qualité de ce qui est produit. Évidemment, un petit qui parle à peine le français, je vais l'aider. Mais il va lire.
Oui, et on va organiser en amont toute une série d'apprentissages autour du résumé, en variant la longueur et la complexité des textes et en variant sur les techniques de résumé. On les commence déjà dans l'enseignement maternel, hein, les résumés, quand l'institutrice raconte une histoire et que les enfants doivent classer des pictos qui sont dans le désordre, qui correspondent à l'histoire, on est dans une logique de résumé, c'est-à-dire dans une logique de conceptualisation d'éléments qu'on nous donne.
Ça, c'est une partie de pédagogie du chef-d'œuvre. Et puis le chef-d'œuvre pédagogique, c'est, exactement comme Jean-Pierre l'évoquait, l'aboutissement d'un long travail qui est présenté, dans nos écoles en tout cas, par un seul enfant devant un public souvent de 70 à 80 personnes, dont entre 10 et 15 adultes. Mais tout ça, vous allez le découvrir. Alors Freinet, il a fait quelque chose d'intéressant. C'est qu'il voulait absolument donner une légitimité à cette pratique. Ce n'était pas du bricolage, il voulait absolument qu'on la reconnaisse. Il fallait du temps. Hein. Nous, on a rencontré 3 ministres qui nous disaient « Oui, c'est magnifique. D'ailleurs, on voudrait bien que notre petit-fils soit dans une de vos 2 écoles. Mais on ne va pas tout de suite le mettre dans la loi, le chef-d'œuvre pédagogique. » Il est en revanche passé auprès des collectifs d'alphabétisation. Donc on a réussi à le faire passer. Les adultes peuvent obtenir leur certificat d'études d'enseignement primaire sur base d'un chef-d'œuvre pédagogique. Donc il y a derrière cette pédagogie et la pratique du chef-d'œuvre des intentions et des options politiques. Voilà.
Oui. Charles Pepinster, c'est un inspecteur de l'enseignement en Belgique que nous avons eu comme inspecteur, qui a refusé d'organiser les examens cantonaux, les examens que le ministère souhaitait qu'il organise, et qui a proposé cette alternative de chef-d'œuvre. Et donc, il est entré en combat toute sa vie, ça ne lui a pas valu que des amis d'ailleurs, il a dû aller se justifier plusieurs fois à la hiérarchie, mais il est toujours vivant et en pleine forme.
Bien.
Voilà, et donc, chef-d'œuvre pédagogique, la plénitude dans la preuve, nous parlons de preuve plutôt qu'épreuve. Vous voyez que nous mettons une tension là entre les épreuves externes standardisées. Vous en avez peut-être ici en France, nous on en a massivement avec, entre autres, pizza, etc. Et où on doit subir une épreuve pour avoir son sésame. Nous disons, on va faire la preuve que l'on est suffisamment grand et que l'on maîtrise suffisamment de choses pour passer au stade après, pour passer dans l'adolescence quand on est dans l'enseignement primaire, pour passer dans l'enseignement supérieur quand on est dans l'enseignement secondaire, etc. Mais évidemment, cette démarche ne peut pas tomber du ciel. Ça ne fonctionne que si en amont, on a installé toute une série de choses qui permettent de faire ça. En amont, ça commence à 4 ans, 4 ans, 5 ans. Le fait de proposer des référents différents aux enfants, c'est de la pédagogie du chef-d'œuvre. Leur montrer que tous les lapins ne mangent pas des carottes, c'est de la pédagogie du chef-d'œuvre. Leur apprendre à ne pas avoir le trac quand ils sont devant les autres, nous sommes dans la pédagogie du chef-d'œuvre. Et donc il y a toute une série de dispositifs, de démarches, de réflexions qui sont à mettre en place en amont de ce fameux chef-d'œuvre pédagogique.
Je fais tout de suite un pont en avant. Une des caractéristiques principales des élèves qui ont présenté le chef-d'œuvre chez nous, et puis qui ont continué, parce qu'on a à peu près maintenant une dizaine d'études universitaires sur ce qu'ils sont devenus, bon voilà. Une des principales caractéristiques, c'est leur capacité à interpeller et à poser des questions. Je vous ai dit que c'était très politique hein, comme pédagogie.
Voilà.
Ils viennent souvent de délégués de classe, nos anciens.
Donc, cette pédagogie invite et propose et les enseignants et les enfants à quitter la simplification et à s'engager vers une compréhension de la complexité croissante du monde. Alors, moi j'ai un souvenir très précis. Je suis debout devant mon maître d'école. Il me dit « Manil, combien sommes-nous sur la Terre ?» Je réponds « 4,5 ». Il me met zéro. Bon, je pense qu'il n'a pas compris que j'avais en tête une unité de mesure. Et lui, dans sa tête, il m'a dit « Donc, tu vas couper quelqu'un en deux. » Voilà. Donc, ça m'a marqué. Nous sommes bientôt 9. Donc le monde se complexifie, hein, avec tout ce que ça comporte. Donc ça c'est un des facteurs, mais il y en a plein d'autres. Donc, ou plutôt, on met les gosses, les gamins, les jeunes gens, les adultes, les jeunes adultes qui sont en université devant des réalités complexes à gérer, ou plutôt, à notre avis, nous les outillons pour affronter ce qui les attend dans l'avenir, et ça risque d'être énergique.
Donc on a paradigme de la simplification qu'on peut appeler aussi la posture résolutoire. Hein. Il faut apprendre des réponses que vous allez restituer en temps voulu, à l'opposé d'une posture problématologique où on va interroger la question. Donc pédagogie de la réponse, pédagogie de la question. Je vous donne un exemple, paradigme de la simplification, 6 x 7, c'est 42, point final. Si on va dans la posture résolutoire et qu'on interroge 6 x 7, 42, on découvre que 6 x 7 égale 42, c'est peut-être, c'est certainement d'ailleurs, 3 x 7, 2 fois, ou 2 x 7, 3 fois, ou 6 x 4 et 6 x 3, ou 6 x 14 coupé en 2, 6 x 28 coupé en 4. Et donc on est parti sur une compréhension de la mathématique qui est beaucoup plus importante à notre avis, qu'une restitution de la bonne réponse. Parce que dans les trois quarts des cas, on prend son téléphone et on cherche la réponse.
Bon, ça, c'est le cas général. Revenons-en au chef-d'œuvre en tant que tel. Donc, ils choisissent un sujet. Et pendant une année, à partir de consignes très cadrées et cadrantes, 65 consignes, ils développent. Et on s'est demandé, à un moment donné, mais qu'est-ce qui oriente leur choix de sujet à ces gamins? Et on s'est rendu compte qu'ils étaient classables en trois catégories, qui à nos yeux sont extraordinaires. Il y a des choix qui sont illustratifs. Donc, ils choisissent un sujet uniquement pour avoir de la matière, pour montrer ce dont ils sont capables en termes de découverte, d'exploration d'un sujet, de présentation aux autres. Bon.
Exemple, chef-d'œuvre sur les volcans.
Voilà. Chef-d'œuvre sur les dinosaures. Bien que. Oui. Chef-d'œuvre sur les dinosaures, c'est une gamine qui avait choisi ça. Et elle prépare une très belle affiche sur la disparition des dinosaures. Et je ne comprends pas l'affiche. Je dis, mais la disparition des dinosaures, on a quand même des hypothèses sérieuses. Oui, mais moi j'ai pensé à une nouvelle. Ah, dis-moi. Peut-être ont-ils eu des problèmes pour se reproduire. C'est un problème de gènes. Ben écoute, tu peux le présenter lors de ton chef-d'œuvre pédagogique.
Donc, cette gamine-là est capable de dire ça parce qu'elle a été alimentée en référents. Hein, elle a eu l'occasion de voir beaucoup de documents. Parce qu'elle est capable de sortir du dogme et d'une vérité révélée pour interroger la question. Et parce qu'elle a un peu d'audace.
Alors, il y a des sujets compréhensifs. Alors, ça, ils sont très intéressants. Ce sont des enfants qui prennent un sujet pour l'explorer, pour comprendre une part de leur vie. La catastrophe minière du bois du Casier. Chez nous, il y a une catastrophe minière terrible, celle du bois du Casier. Il y a eu des centaines de mineurs décédés. Pourquoi choisis-tu ça, mon chou ? Bien parce que mon grand-père y était.
Autre exemple de chef-d'œuvre compréhensif, c'est une gamine qui décide de faire sur l'électricité. Une gamine qui fait sur l'électricité. Donc je trouve le sujet intéressant, j'alimente avec des référents. Et puis, ce n'est pas par les parents que j'ai eu l'info, c'est par la psychologue du PMS. La grande sœur de cette gamine-là est décédée quand elle avait 8 ans parce qu'elle est allée chipoter au frigo.
On retrouve ça chez les adultes. L'inceste, le chômage, quitter mon pays. Et le dernier, il est assez extraordinaire aussi, c'est projectif. C'est-à-dire, il y a des enfants qui, à 11-12 ans, choisissent un sujet, et 15 ans ou 20 ans plus tard, on retrouve ce sujet totalement ancré dans leur vie adulte.
C'est le garçon qui fait son chef-d'œuvre sur la volaille, et qui maintenant, à 35 ans, a 40 000 poulets. Mais avec de l'espace. Ou c'est la gamine qui fait son chef-d'œuvre sur les instruments de musique à cordes frottées et qui est actuellement professeur au conservatoire, professeur de violoncelle. Ils ne le savent pas à ce moment-là. Mais il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'autoréalisation authentique.
Oui. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent s'approprier le monde et que nous, on respecte l'hétérogénéité des élèves qui soient devant nous. Évidemment, tous les sujets, il ne faut pas les admettre. Je vais faire mon chef-d'œuvre pédagogique sur la France. Non, on ne va pas aller. On ne va pas aller. Ça, évidemment, il faut être très très rigoureux. Même titre que si vous vous embarquez dans une thèse de doctorat, votre directeur ne va pas vous laisser partir dans des zones nébuleuses. Hein. Il va pouvoir vous aider. Et une thèse de doctorat peut devenir un chef-d'œuvre pédagogique. Il y a certains directeurs de thèse, d'ailleurs, qui rendent ça un chef-d'œuvre pédagogique. On est dans la même logique. Bon.
Alors, nous avons essayé de faire des liens avec les facilitateurs à l'apprentissage, parce qu'il nous semble que dans la pédagogie du chef-d'œuvre, on retrouve cette ingrédients-là de façon massive. Alors on va vous les décliner en faisant des pontages sur le chef-d'œuvre. Au départ, la recherche que nous avons faite sur les facilitateurs à l'apprentissage a concerné 1840 personnes. Donc nous avons interviewé 1840 personnes pour dégager des poches en leur demandant à tous la même question, tiens, à votre avis, qu'est-ce qui facilite l'apprentissage ? Nous sommes sortis du champ scolaire un petit peu, on est allé sur le champ sportif aussi, sur l'enseignement secondaire, chez les élèves, pour avoir une grosse validité sur la démarche.
Alors, la pédagogie du chef-d'œuvre, elle rencontre un premier facilitateur, c'est d'accepter et de gérer les émotions. Le premier frein à l'apprentissage, c'est ça. Vous avez tous devant vous l'image du gamin ou de la gamine, vous annoncez ce que vous allez faire et elle fait... C'est très violent pour un enseignant de voir ça. Très violent. Mais qui est-il, celui-là ? J'ai préparé tout, mais non, qu'est-ce que c'est ? Mais on n'a aucun pouvoir d'ailleurs. Bon. Or, on a découvert que le simple fait d'accepter cette manifestation va déjà débloquer la zone, va déjà débloquer l'énergie pour aller vers l'apprentissage. C'est déjà un premier pas. Alors si en plus on leur permet de gérer cette relation savoir, je reviens à mon exemple du roman. Je choisis un roman, mais je me rends compte que je ne l'aime pas. Ça ne me plaît pas. Ben tu peux en changer. l'erreur qui amène au dégoût de la lecture, c'est de dire, ben non, c'est celui-là qui doit lire. On peut obliger à lire des choses, hein, on s'entend, mais il faut le faire de manière adéquate.
Alors, c'est un peu sa névrose, les émotions. Il a travaillé beaucoup là-dessus. Je vous dis comment il a travaillé là-dessus. Il a déposé dans son école, dans sa maison, des dictaphones à tous les étages, en demandant à ses élèves de venir dire au dictaphone, quand ils le voulaient, quand ils étaient heureux ou malheureux à l'école. Et il a récolté des milliers de témoignages. Parce que ça a duré 3 ans. Et donc, il est... C'est un tenace, hein, un peu têtu aussi. Bon, ça... Et donc, il a cherché à grouper, donc à mettre ensemble des choses qui vont ensemble pour étiqueter.
Oui, donc les situations d'apprentissage que l'on propose, elles provoquent des choses radicalement différentes. Je vous donne un exemple qui va faire écho. C'est, vous proposez une activité d'apprentissage et elle fait écho dans la tête des gamins dont vous occupez, enfin, des jeunes gens, des gamins. Mais elle fait écho à une expérience préalable quelque peu douloureuse. Mais n'allez pas plus loin, c'est foutu. C'est fini. Il peut aussi y avoir d'autres éléments, c'est se dire, dans la salle, dans ma classe, il y a des jeunes gens, des gamins, qui vont chercher à provoquer l'insipide dont ils savent qu'ils vont tirer du bénéfice en termes d'apprentissage. Il y a aussi tout l'échange, et c'est là où on en arrive à la pédagogie du chaîneur, c'est échanger pour se construire. Ça ressort terriblement. Alors, quant à la gestion de l'émotion et les canaux de communication que nous sommes censés ouvrir le plus possible pour qu'elle puisse se libérer, j'écoute un témoignage le soir. Et cette fois-ci, j'en ai marre, les profs, vous m'énervez, surtout toi Jean-François, je ne t'aime pas, t'es vraiment, ça m'énerve. C'était Hugo. Le lendemain matin, j'arrive à l'école, Hugo arrive. Ça va? Oui. Fini. Il avait pu dire. Sans se faire ramasser par copier 50 fois, je dois être respectueux envers mon professeur, chéri que j'aime tant. Alors, il y a plein d'autres outils, bien sûr, mais celui-là était assez impressionnant et... Des personnes ayant entendu parler de mon expérience l'ont utilisé par ailleurs, même en France. Et le résultat a été identique. Donc les attitudes des témoignants, enfin des personnes qui témoignaient, étaient les mêmes. Voilà. Bon.
Alors, là on est dans le registre des émotions et... particulièrement chez les étudiants qui ont été blessés par l'école. Donc, une nouvelle situation d'apprentissage va provoquer ces questions-là. Est-ce que c'est dangereux? Alors, danger, c'est est-ce que je risque d'avoir encore un 0 sur 10? Est-ce que c'est difficile? Donc, est-ce que je vais comprendre un petit peu ou pas du tout? Est-ce que c'est cool? Est-ce que je vais aimer ce qu'on va faire? Est-ce que je vais découvrir de nouveaux horizons? Et est-ce que c'est opportun pour moi? Alors, je vous donne un exemple par rapport au chef-d'œuvre. C'est Maxime. Il était presque aussi grand que moi en 6e primaire. Et lui, Maxime, c'est football. Football, football, football. Et donc, il veut faire son chef-d'œuvre sur le football. Mais football, lui, c'est Messi, Zidane, Ronaldo, et puis c'est terminé. Et donc, j'ai dit, si, ça n'ira pas. Il avait déjà vu d'autres chefs-d'œuvre, donc je lui ai amené des exigences. Première exigence, c'est de réaliser une maquette d'un terrain de football à l'échelle 1/50. Il y a plein de choses dans un terrain de football, hein. Il y a des rectangles, etc. Et puis, avec de l'exigence, il a recommencé jusqu'au moment où c'était nickel. Puis, le patron d'un ballon de football. Le patron d'un ballon de football. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un ballon de football. C'est un pentagone entouré d'hexagones. Et puis, on recommence. Là, j'ai perdu quelques cheveux. Parce que il ne voulait pas, mais je voulais qu'il réussisse. Et donc, lui, il savait qu'il allait présenter ça aux autres, donc il fallait quelque chose de bien. Alors, il voulait présenter son équipe type, son 11 de base. Je dis, non, ton 11 de base, tu vas le faire en allant interviewer tous les enfants de l'école en leur demandant leurs 3 joueurs préférés. Et tu vas faire ton 11 de base à partir de ce qu'ils vont te dire. Voyez, avec des petites fiches, hein. Je voudrais bien aussi, parce que, comme tous les enfants, en France aussi, ils collectionnaient les vignettes Panini. Panini. Ça, c'est une affaire, vous savez, Panini. Je voudrais bien que tu présentes ta situation de calcul, c'est-à-dire de calculer combien coûte un album Panini quand il est bien rempli et qu'on n'a pas d'image en double. On n'arrive pas, hein. Mais ça coûte plus de 60 euros. Donc, si tu vois l'album qui est bien rempli, tu n'as rien à faire, il est tout rempli à la librairie pour 60 euros, tu l'achètes? Ben non, c'est cher. Tu as beaucoup d'images en double? Ah oui, regardez. J'en avais pour plus de 200 euros d'images en double. Et la dernière chose que j'ai voulu lui faire, c'est de me commenter une vidéo capturée sur Internet sur la fabrication des chaussures de football par des enfants du Bangladesh. Et voilà, on a répondu à ces 5 questions-là. Bon, il a quand même fait un chef-d'œuvre où il a parlé de Messi et de Ronaldo. Il a montré comment il dribblait, il est venu habillé en habit, etc. Mais en plus, il y avait ça.
Oui, ce qu'il ne vous dira pas, moi je vous le dis, c'est qu'à la fête de l'école, il a pris la parole et le gamin en question, devant tous les parents, le gamin en question est monté sur la scène, lui a pris le micro, il lui a dit, devant tout le monde, « Avant, j'étais transparent. Ici, je suis devenu quelqu'un. » Et puis, il a embrassé M. Guillaume.
Voilà. Et devinez ce que j'ai fait après. J'ai été boire une chimée bleue avec ses parents.
Alors, le deuxième principe qui est facilitateur totalement intégré dans la pédagogie du chef, c'est faire et exposer. Ça demande une responsabilisation, ça demande une socialisation et ça permet la valorisation. Donc l'idée, le principe, c'est être sujet-auteur plutôt qu'objet-récepteur. Et pas plus tard qu'il y a 22 minutes, je parlais avec une des personnes du public qui témoignait que dans sa classe, en anglais, il y avait une inversion des rôles et que cette personne était restée assise sur sa chaise en admirant ses élèves faire et communiquer, chacun à tour de rôle. Il dit, vous étiez totalement dans la pédagogie du chef d'œuvre. J'insiste sur quelque chose et je dis mon admiration pour cette personne parce que il y a très peu de temps, des professeurs de langue d'un autre pays que le nôtre et que le vôtre sont venus nous demander des conseils pour que l'apprentissage des langues devienne un peu intéressant parce qu'ils étaient confrontés à un certain nombre d'attitudes rebelles. Première chose que nous avons...
Je traduis, les enfants sont difficiles, hein. Bon.
La première chose qu'on a évoquée avec elle, c'est est-ce que vous savez qu'une langue est un outil de communication avant d'être un objet scolaire? Et on lui a proposé de mettre ses élèves en situation d'explorer la langue sur des sujets qui les intéressaient pour communiquer aux autres. Alors, ça va être vraiment bien. Jusqu'au moment où il y a eu un blanc, elle a dit non, ça je ne ferai pas.
Pourquoi ?
Parce qu'ils vont penser que je ne fais rien. La pédagogie du chef-d'œuvre, ça implique de la part des enseignants d'être capable de se retenir.
Je vous donne un exemple facile à transférer. Journal. Chez nous en Belgique, on a le journal des enfants, mais ça peut se faire avec n'importe quel journal. Pour autant qu'on ait autant d'exemplaires du même journal qu'il y a d'élèves, plutôt que de préparer un questionnaire le soir à la maison, on leur dit, voilà, vous allez vous mettre en duo et vous allez inventer, chaque duo, trois questions dont les réponses se trouvent dans le journal. Et vous venez me les montrer à moi et je valide. Et une fois qu'elles sont validées, je demande à chaque duo de recopier une question ou deux au tableau. En signant, une fois que toutes les questions sont mises au tableau, il peut y en avoir très rapidement 25-30, on valide l'orthographe, on fait une lecture tout haut parce que tout le monde n'a pas la même écriture, et puis on leur dit, voilà, vous en choisissez 8 ou 9, vous ne pouvez pas prendre les vôtres, et vous y répondez, mais vous vous faites corriger par ceux qui ont signé. C'est du bonheur pédagogique. Il y a un petit peu de bruit, mais c'est du bon bruit.
Ah, vous allez entendre...
Je suis en train de faire un texte qui explique l'équivalent en chimie, et j'essaie d'expliquer que mes propres mots.
Voilà, ces deux témoignages, ces enfants-là ont tous les deux un parcours très particulier. Le petit là qui vient de parler, j'ai pour lui une tendresse certaine parce que, vu son histoire de vie, je l'ai félicité d'être capable de parler comme ça devant une caméra. Mais il était très heureux de le faire. Et alors vous avez entendu ce sur quoi il travaille. Il est en train de résumer, mais que avec ses propres mots, un texte qui parle des pieds bandés en Chine. Alors lui, il était totalement dans le compréhensif. Voilà.
C'est comment l'autre, son prénom ?
Thomas.
Je fais des mini-exposés sur des animaux qui sont à peu près connus.
La chose qu'il faut retenir de ce qu'il vient de dire, c'est je fais des exposés, des mini-exposés sur des animaux à peu près connus, mais que je veux faire apprendre. Donc ils sont totalement pétris de l'idée que leur travail va être communiqué. Le but, c'est de communiquer aux autres. Derrière ça, j'ai une réflexion, moi, qui me taraude depuis des années. Depuis que je suis élève, le nombre de choses qu'on m'a fait faire à l'école et qui n'ont jamais été communiquées. Or, d'après certains sociologues, l'homme et la femme ne sont que communication. Il y a un hiatus.
Proposer un étayage. L'exemple de Justine, c'est tout à fait ça. C'est prendre le temps de s'asseoir pour donner un coup de main. L'étayage, c'est un terme qui nous vient de la construction, de la maçonnerie. Avant que le béton ne soit sec, on laisse les étais. Et puis on les enlève quand le béton est pris. Eh bien, finalement, notre métier, c'est ça, c'est soutenir les débuts fragiles. Soutenir les débuts fragiles et empêcher que des enfants ne s'effondrent, pétris de l'idée qu'ils ne sont pas capables d'eux.
Voilà. le soutien aux des plus fragiles, c'est le plus important, à mes yeux en tout cas, parce que les personnes, les gamins, les jeunes gens qui sont en face de nous, ce sont des radars. Des radars pour détecter chez nous si on a un projet pour eux ou s'ils n'ont pas de valeur pour nous. Ça, c'est clair et net. Qu'ils aient 3 ans, 4 ans, 10 ans, 18 ans, 22 ans, 42 ans. Des vrais radars.
Bien sûr, si l'adulte représente quelqu'un à qui l'enfant ou l'adolescent a envie de ressembler plus tard, c'est bingo. Mais pour ça, il faut se dévoiler un petit peu. Il ne faut pas rester derrière son bureau à donner ses feuilles, donner ses cours. Il faut accepter de se livrer un petit peu.
Pas trop, hein.
Raconte pas tout, hein.
Ah, on arrive au cœur du problème des consignes. Gérer le temps, les consignes et les références, c'est un des facilitateurs à l'apprentissage extrêmement puissant. Alors, dans le chef-d'œuvre pédagogique et dans la pédagogie du chef-d'œuvre, il y a des consignes qui favorisent la problématisation. Ça, c'est vraiment très intéressant.
La première consigne, c'est voilà ton sujet, je t'invite à collecter les questionnements de ton entourage dans la classe, à la maison, chez les collègues, dans la cour de récréation, c'est-à-dire s'adresser aux autres en disant « Eh tiens, moi je fais sur l'électricité, qu'est-ce que tu as envie de savoir ?» Et donc, une partie de la présentation sera consacrée aux réponses qu'ils vont donner à ces questions-là. Et ça, dans la dynamique de présentation, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter la passivité. Donc, il ne faut pas mettre cette consigne-là au début de la présentation. Au début de la présentation, tout le monde est attentif. D'accord ? Et en disant « Ah, Kevin, j'ai trouvé la réponse à ta question. » Kevin qui a posé la question, il est fier. Hein. Voyez ? Ou « J'ai pas trouvé. C'était tellement compliqué. » Ou « Je n'ai pas eu les mêmes infos. »
Voilà. Il y a des consignes qui permettent de gérer les incertitudes, la gestion des incertitudes. Nous pensons que une des qualités prochaine des personnes qui vont vivre sur cette terre, c'est d'être capable de vivre dans la transition et de gérer des incertitudes. C'est la gamine qui dit « Ben moi, je ne suis pas sûr que les dinosaures aient disparu comme ça. » Ou c'est « Je parle de delphinarium, mais ce qui est un peu embêtant, c'est qu'un dauphin en liberté, il vit 25 ans. Un dauphin dans un delphinarium, il vit 35 ans. Qu'est-ce que c'est le mieux ? Voilà.
Alors, une autre consigne qui va favoriser ça, c'est systématiquement de leur demander de traquer des informations contradictoires. Traquer des informations contradictoires. Et c'est possible, pour autant qu'on ait des sources différentes. C'est énorme, les informations contradictoires qu'il y a sur la toile, qu'il y a dans les ouvrages et qu'il y a autour de nous. C'est énorme.
Nous, on s'est amusé, mais ça n'a jamais été publié, à traquer les informations contradictoires dans les manuels d'histoire. Très intéressant. Alors, évidemment, il y a les consignes de communication et de socialisation, mais ça, il y a plein d'éléments précis. La formalisation, elle est importante. C'est chaque fois que tu poses un acte, réfléchis, il faut qu'il y ait une trace. Alors, quelle va être cette trace ? Écrite, enregistrée, filmée, peu importe. Mais ça doit être formalisé. Parce qu'il faut que ce soit organisé dans la tête.
Et ils doivent constituer ce qu'on appelle un dossier de mise en patrimoine. On peut considérer que c'est dans la logique du portfolio, hein, où ils vont collecter toute une série de traces par rapport à leur démarche de recherche.
Il y a des consignes qui permettent vraiment d'augmenter, de respecter l'autonomie et d'apprendre l'indépendance. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour que les enfants et les jeunes gens apprennent à quitter le tout tout de suite. Le plaisir immédiat, l'immédiateté, l'autonomie et l'indépendance, qui sont des choses différentes. Hein. L'autonomie, on peut faire que la respecter. Alors, je m'explique. Un enfant qui aurait des caractéristiques autistiques est un enfant très autonome. Il a une représentation du monde qui est la sienne. Il est peut-être pas tout à fait indépendant. Donc c'est des choses qu'il faut... On parle beaucoup d'autonomie dans l'enseignement. Mais je pense qu'il faudrait retourner aux racines des mots.
Donc le roadbook avec les consignes, ça favorise clairement la prise d'autonomie. Les moments de débriefing individuel aussi, mais aussi accepter que deux, trois étudiants travaillent dans le corridor sans la présence permanente d'un adulte. Au début, c'est pas facile parce qu'il y a du mauvais bruit. Et la question qu'on se pose, c'est quand est-ce que je vais intervenir? Et quand on se sent regardé par des collègues ou l'autre, on a envie d'intervenir vite, mais n'allons pas trop vite. C'est peut-être ce prix-là qu'il faut payer un petit peu pour grandir dans l'autonomie. Donc, alors évidemment, si vous essayez ça, vous savez bien qu'il ne faut pas mettre d'emblée dans le corridor. Hein. Bon, il faut savoir un petit peu gérer, et puis un petit peu, pas trop longtemps. Et on fait des groupes hétérogènes, évidemment.
Et donc, les dernières, c'est les consignes qui engagent et qui rendent tenace l'ancrage culturel. Nous sommes persuadés que c'est la culture qui doit dominer, qui doit être le terreau de tout ce que nous proposons à l'école. L'ancrage culturel. Je suis passionné des mathématiques, mais je suis passionné de l'histoire des mathématiques. Eh bien, c'est impressionnant le nombre de concepts ou de notions mathématiques qui sont enseignées, mais on oublie ce qu'on appelle l'épistémologie, on oublie de dire comment elles ont été découvertes. Faisons ça, et tout d'un coup, les étudiants, les enfants, se disent « mince, en fait c'est l'homme qui a inventé les maths, c'est pas magique. » Et il y a des histoires là derrière. L'ancrage culturel.
Donc,
La poésie, il faut en user, en abuser, même au cours de maths, me semble-t-il.
Poésie, labbook, réalisation de labbook, donc de livret un peu dynamique, amusant, avec de l'artistique, et le répertoire de toutes les sources qu'on a utilisé, donc la bibliographie, c'est absolument essentiel à faire dans ce contexte-là. La ligne du temps, aussi. La ligne du temps. Il a dû me les placer, hein, les joueurs célèbres de football qui ont marqué le plus de goals à la Coupe du Monde, sur une ligne du temps. Sur une ligne du temps, comme ça.
Bonjour, je...
Oui.
Bonjour, François, c'est Léa. Je voudrais... Donc, on est le 30 septembre, pardon. Et je voudrais te dire que ce qui m'aide à apprendre, c'est être en groupe. Donc, voilà. Et aussi, pour le chef-d'œuvre, j'aimerais bien gagner du temps pour avancer beaucoup plus vite. Parce que, voilà, moi, je prépare travailler maintenant. Et qu'à la fin, je répéterai beaucoup, voilà. Et que je connaisse mon texte par cœur, voilà. Et l'idée de Nel, c'était très bien. Et on devrait faire ça plus souvent, parce qu'on est souvent stressé et tout ça. Et voilà. Donc, voilà.
Donc ça, c'est un des témoignages dictaphones. Gérer le temps et les référents, elle le dit, elle le demande, hein. Il faut du temps. Allez, s'il vous plaît, Jean-François, dépêche-toi.
Stabilité et sécurité. on n'apprend que si on fait des erreurs. Et pour ça, il faut accepter de faire des erreurs. Quand l'enseignant considère que ce sont des fautes, les enfants ne vont pas montrer ces erreurs-là, ils vont les cacher. Et donc, ce climat de stabilité et de sécurité est propice à l'émergence d'erreurs qui vont nous permettre, à nous, enseignants, de comprendre la genèse de l'erreur et de la rectifier tout de suite. Au plus vite elle est rectifiée, au plus l'apprentissage est efficace. Si vous la rectifiez 3 jours après, ça ne sert à rien. Donc, rectifier des erreurs par le biais de corrections qu'on fait à la maison, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace.
Être conscient aussi d'une chose, c'est que les élèves, enfin n'importe qui d'ailleurs, a un peu de mal à recevoir des jugements. En revanche, la plupart des personnes sont capables d'entendre des critiques. La critique étant un outil remarquable pour faire grandir. Critiques qui doivent être formulées avec bienveillance, bien sûr. Donc si on assure la stabilité et qu'on évite le jugement, on peut être extrêmement exigeant avec ses élèves. Parce qu'ils savent que c'est de la critique et que ce n'est pas lui, la personne qui est jugée, c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et notre but, c'est de lui donner la confiance en lui, en disant, allez, vas-y, il faut y aller. Mais ça, pour le moment, ce n'est pas encore bon.
Vous l'entendrez souvent dire, oh la belle erreur!
Jean-François, c'est, on est le 6 du 11 2013. C'est pas rien. Ce qui m'aide à prendre, c'est de se tromper. Chaque fois que je me trompe, je découvre la réponse et une autre réponse, mais ça peut être correct. Et en se trompant, on apprend. Voilà.
C'est tout. Voilà. Ce qu'on appelle une leçon pédagogique.
Regardez, le métier de chercheur n'est pas toujours facile.
Allez, Goli.
Voilà. Je l'ai pas voulu. Parler de ce qu'on apprend, ça implique que les apprenants soient au courant de ce que l'on attend d'eux. Et
tu n'as plus rien à dire?
Non, parce que je vois l'air qui passe.
Et, si, je vais quand même dire quelque chose.
Allez, je remets.
Tu remets, oui. C'est assez impressionnant de faire l'expérience suivante. Vous donnez une tâche, et puis vous demandez... Donc, qui veut reformuler ce qu'on doit faire? Il y a 25 élèves dans le local. Vous avez entre 10 et 15 interprétations. Ça, c'est un fait. Là où il faut être attentif, c'est que si nous, on attend une seule réaction à notre consigne, bien, on va tout de suite être déçu. Et... vous pouvez faire l'expérience, de nombreuses fois, vous aurez entre 10 et 15 interprétations de cette consigne qui est pourtant très claire pour nous. Ah, sauf que la construction d'une consigne dont expliciter très clairement ce qu'on attend d'un élève, on a découvert que si on voulait vraiment être au clair avec ça, il fallait d'abord l'écrire et qu'il fallait maximum 7 mots. Vous pouvez faire 2 fois 7 mots. Mais au plus vous allez dire, redire, réexpliquer, au plus c'est cuit. Donc, mon métier, moi, d'enseignant, de formateur ou de professeur, c'est de passer du temps avec mon crayon et ma
feuille blanche,
à écrire une consigne en 7 mots. Si je ne suis pas capable de l'écrire, je m'inflige à moi une mauvaise note. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de le faire, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire faire à mes élèves ou à mes étudiants.
C'est très intéressant aussi, une fois que on a terminé une séquence d'apprentissage, de s'adresser à ses étudiants leur disant « Tiens, à votre avis, qu'est-ce que j'ai voulu vous faire apprendre en faisant ce qu'on vient de faire ?»
Et le dernier facilitateur qui est intimement intégré à la pédagogie du chef-d'œuvre, c'est d'organiser les interactions. Mais vous l'avez entendu, la gamine qui dit « Moi, ce qui m'aide à apprendre, c'est les autres. » Mais évidemment, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a énormément d'enseignants qui disent « Oui, mais moi, les travaux de groupe, ça ne fonctionne pas. C'est toujours les mêmes qui travaillent. » Et ils ont raison de le dire. C'est vrai. Dès lors que les groupes et les groupements, les attentes et les traces ne sont pas prévues et organisées.
Ben oui, si vous leur dites « Faites des groupes, les petits amis », ça n'ira pas, hein.
Je reviens sur un cours d'anglais. Vous devez écouter un extrait d'une émission radio et la retranscrire par écrit. Bon, ça, c'est une consigne qu'on peut donner dans un cours d'anglais. On peut donner la consigne, mais autrement. Voilà, vous allez être à 2 ou 3. Vous allez écouter un extrait d'une émission radio, vous allez la retranscrire. Il est interdit d'écrire plus vite que l'autre. Vous devez écrire la même chose en même temps. Je vous promets qu'il y a une autorégulation. Et il y a une compréhension de plus en plus fine. Évidemment, au début, ça patauge un peu. Mais la suite des opérations est très très intéressante.
Ce dispositif-là est un adjuvant essentiel pour construire l'empathie.
Voilà.
Alors, les 7 facilitateurs, on les a regroupés en 4 verbes que l'on rencontre systématiquement dans la pédagogie du chef-d'œuvre : rencontrer, émanciper, humaniser et se construire. Et nous pensons, pour nous en tout cas c'est le cas, nous espérons que ça procure un peu de bonheur pédagogique. Et qu'on vienne à l'école en sifflotant. Parfois quand on retourne à la maison, on ne sifflote pas tous les jours, hein, je suis d'accord.
Oui.
Des souvenirs d'activité.
Le chef d'œuvre.
Qu'est-ce qu'on faisait? Ah, le chef d'œuvre, c'est quoi ça?
C'était un. Je pense que c'est le meilleur truc qu'il y a à Saint-Gérard. C'est un peu comme un gros exposé. Donc, par exemple, on prend un thème qu'on aime bien. Moi, j'ai pris le thème du secourisme. Et pendant un an, on travaille chaque semaine, genre une heure ou quoi. On allait voir sur internet, il fallait voir, il fallait téléphoner à des gens pour avoir des renseignements. On allait voir des expositions et tout. Là, c'est vraiment le moment où j'ai plus appris. Et je me suis dit, je peux enfin montrer. Je peux au moins montrer ce que je veux dans quelque chose qui me plaît et non dans des points.
On va.
Nous avons l'intention de terminer la conférence sur ce témoignage d'enfant. Car, vous l'aurez compris, nous accordons une énorme importance à la parole vraie des enfants. En recherche, en tout cas, c'est très rare qu'on leur accorde la moindre importance. Et en pédagogie, nous l'espérons. Donc, Un des premiers principes de la pédagogie du chef d'œuvre, c'est de se dire que ils ont une représentation de leur présence à l'école et qu'ils ont de l'énergie à développer, à dépenser pour se développer. Mais il faut les écouter. Et puis après, tout organiser. Il y a beaucoup d'anciens élèves qui ont pu témoigner, alors qu'ils avaient eu un parcours scolaire cabossé préalable, qui ont pu nous dire que, en fait, ce qui les avait le plus blessés, c'était le fait d'avoir le sentiment de ne jamais être écouté. Et dans la pédagogie du chef-d'œuvre, non seulement on les écoute, mais on leur demande de parler. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers organisateurs, merci à vous.
On est dans le timing, c'est bien.
J'espère que vous êtes très très frustrés. Vous avez envie d'en savoir beaucoup plus. Alors, ce qu'on propose, un mode de fonctionnement qu'on a expérimenté à l'occasion de différentes rencontres, débats, ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de la pause réflexive. Je crois que, au fur et à mesure de ce jeu des duétistes, il y a des choses qui entrent, qui s'imprègnent. Donc ça demande, on propose 10 minutes. 10 minutes où on vous demande en petits groupes de proximité. Alors, ils ont dit des choses sur les groupes, hein. Vous n'êtes pas obligé de les écouter, vous avez le droit de vous mettre comme vous voulez, hein. De ne pas faire de mauvais bruit. Et puis, au bout de 10 minutes, d'arriver à dégager, on va dire, 3 questions dans le petit groupe. Hein. Bon, je ne sais pas combien vous êtes, on ne savait pas combien il y aurait de personnes, donc les groupes, il faut quand même qu'ils soient au moins 5-6 personnes, sinon on va s'éterniser et on n'aura pas le temps d'aller manger. Ça serait très, très embêtant. Compte sur vous pour faire des groupes un tout petit peu consistants. Donc, vous dégagez 3 questions que vous souhaitez poser à nos deux intervenants. Vous désignez quelqu'un, évidemment, qui va ensuite les porter pour l'ensemble. Et puis, on vous demandera ensuite d'en retenir une. Enfin, pas ensuite, d'ailleurs. Vous en choisissez une, pardon, que vous considérez comme prioritaire pour que chaque groupe puisse faire part d'une question. Et après, si on a un peu de temps, vous aurez le droit d'en poser d'autres. Mais il faut aussi respecter notre créneau horaire. Je ne sais pas quelle heure il est, là.
8h15.
8h15. Donc, bon, par rapport à ce qu'on prévoit, on est pile poil dans les temps. Hein. Mais il faut qu'on y reste. Hein. D'accord ? Même ma consigne ne tient pas en 7 mots.
Je suis en train de me demander combien d'interprétations dans la salle.
Mais ça va, elle est bonne.
Je vais déjà avoir une mauvaise note.
Hein? Vous en profiterez aussi pour signer la note.
Voilà. On peut partir là-dessus. 10 minutes. 10 minutes, petit groupe de proximité, 3 questions, une question prioritaire que quelqu'un portera pour la partager dans le groupe et avec Léonard et Jean-François. Top chrono, c'est parti, 10 minutes. Vous avez le droit de vous déplacer. Voilà. Ça va ?
Excellent.
Hein ?
Excellent.
Non, mais c'est vous qui êtes excellent. Extra. Excuse-moi.
Jean-Pierre.
Moi, je regrette qu'une chose.
Il y a du monde quand même, c'est bien.
Hein ?
Il y a quand même du monde.
Bah, j'ai l'impression.
Oui. Bah, il y a une cinquantaine de personnes.
Bah, 45, ouais, c'était pas mal. C'était un petit peu ce que je... Parce que quand on fait une rencontre comme ça, on a toujours un petit peu un objectif, quoi.
Ouais,
et moi, je me dis, si on est 50, c'est bon. Hein. Ça, c'est un peu d'allure, quoi. Tu sens qu'il y a du monde, tu sens qu'il y a une proximité.
Je pense aussi qu'il y a aussi des personnes qui viennent des personnes relais dans l'assemblée. Tu vois, tu as le monsieur qui est inspecteur.
Oui,
tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est très, très diversifié. Bon, vous l'avez dit, hein. Ce serait très, très hétérogène.
Ça existe. Et il y a 6 groupes qui se sont constitués.
Ah bah c'est bien, c'est très bien.
6 groupes de 7.
Ah bah c'est super. Bah si vous êtes 42, tu vois, il y a une petite cinquantaine, mais c'est bien.
Je vais arrêter là.